Un lexique pour commencer. Ces mots, nous les entendons, nous les lisons de plus en plus fréquemment. Ils me sont répétés par mes patients, aussi bien pour désigner leur maladie que pour discuter du traitement à mettre en place. Ces mots, nous les connaissons, certes, mais savons-nous ce qu'ils signifient vraiment? Je les utiliserai tout au long des pages qui suivent, puisqu'elles leur sont consacrées. Ils seront la brique sur laquelle je poserai parfois des notions complexes. Il me semble donc plus sage de commencer par clarifier les confusions. Bactéries. Première forme de vie apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. La bactérie est un organisme vivant constitué d'une seule cellule sans noyau, c'est-à-dire sans structure pour enfermer et protéger son matériel génétique, le fameux ADN. Elle possède son métabolisme propre, se reproduit, interagit avec son environnement. Elle n'est pas à confondre avec le virus qui, lui, doit parasiter une cellule pour pouvoir se reproduire. Environ 10 000 espèces de bactéries ont été identifiées à ce jour. Il en existe sans doute des millions d'autres. Seules quelques-unes sont pathogènes, la plupart sont inoffensives, voire bénéfiques, y compris pour l'être humain. Notre corps contient bien plus de bactéries que de cellules, et elles nous sont vitales. Je serai amené à citer quelques familles de bactéries, les plus communes étant les firmicutes, les bactéroïdettes et les lactobacillus. Dysbiose. Nous vivons en symbiose avec nos bactéries. Différents facteurs, à commencer par notre alimentation, les médicaments que nous prenons, notre mode de vie, notre environnement, peuvent rompre cette symbiose. Notre population bactérienne diminue, se modifie, elle n'a plus les capacités à travailler pour notre bonne santé. C'est ce qu'on appelle la dysbiose. Greffe de sel. Son nom scientifique est la transplantation de microbiote fécal. C'est une méthode que je vais souvent évoquer dans les pages qui suivent. Réservée en dehors de la recherche à une infection grave du côlon résistante au traitement habituel, elle peut être appelée à devenir une des thérapies de demain. Elle consiste, comme son nom l'indique, à prélever des selles d'un donneur pour les transplanter sur un receveur. Elle implique un protocole rigoureux pour sélectionner le donneur, ensuite pour filtrer ses selles. Le côlon du receveur est d'abord lavé avant que la greffe soit pratiquée par voie rectale ou par voie haute, par l'intermédiaire d'une sonde qui va jusqu'à l'intestin ou avec des gélules remplies de bactéries fécales. Hormones. Il en existe des milliers, toutes différentes. Ces substances chimiques sont produites par des glandes ou des tissus de l'organisme et elles circulent dans le sang pour agir sur les récepteurs d'autres glandes ou d'autres tissus. Leurs effets dépendent de la qualité du récepteur sur lequel elles vont se fixer. Parmi elles, il y a les hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, testostérone. L'insuline, produite par le pancréas, la dopamine et la sérotonine appelées les hormones du bonheur, l'adrénaline qui provoque des réactions d'urgence. Elles ont en quelque sorte un rôle de messager qui régule l'organisme. Junk food. En français, on l'appelle malbouffe ou nourriture de mauvaise qualité. Il ne s'agit pas uniquement des hamburgers gorgés de sauce et autres frites vendues dans les fast-foods, mais c'est aussi l'alimentation industrielle, les sodas à gogo, les jus de fruits frais qui concentrent des sucres et nous privent de fibres. C'est le trop sucré, le trop gras, le trop de viande. Ce sont aussi les faux sushis des restaurants dits japonais, préparés avec beaucoup de riz et un tout petit bout de poisson, alors qu'au Japon, c'est l'inverse. Ce sont les édulcorants et les émulsifiants qui détruisent nos bactéries et vont donc avoir un effet sur notre santé mentale. La junk food, c'est la sacro-sainte règle diététique selon laquelle notre régime devrait être composé de 50% de glucides, de 30% de lipides et de 20% de protéines. Mais aujourd'hui, elle ne fonctionne plus et ne sert plus qu'à fabriquer de l'obésité. Nous surconsommons du sucre au détriment des bonnes graisses qu'on trouve dans certaines huiles, dans les oléagineux, dans les poissons gras, au détriment aussi des protéines végétales et des viandes blanches. Enfin, la junk food, ce sont les quantités toujours plus importantes d'aliments que nous absorbons et qui se traduisent dans les problèmes de santé publique auxquels nous devons désormais faire face. Métabolites. Ce sont des molécules produites pour certaines par le métabolisme des bactéries, dont nos bactéries intestinales, et pour d'autres par nos propres cellules, y compris au niveau du cerveau. Les métabolites produits par les bactéries intestinales peuvent circuler dans le sang. Ils contribuent ainsi au fonctionnement de l'organisme, du cerveau, et agissent par ce biais sur nos comportements. Nous parlerons, entre autres métabolites, du glutamate, des acides aminés, des acides gras à chaîne courte, des acides biliaires. Microbes. Quand j'étais enfant, papa me racontait l'histoire de deux gentils microbes, Robin et Amélie, qui se baladaient dans le corps pour le protéger. Ce fut sans doute le début de ma passion pour la médecine. Le mot microbe a été inventé en 1878 par un chirurgien français, Charles Sédillot, à partir de la racine grecque « mikros », « petit », pour désigner tous les êtres vivants infiniment petits. Un mois plus tard, Louis Pasteur développait sa théorie des germes devant l'Académie de médecine. Le raccourci a été fait et il a perduré. Dans nos esprits, les microbes sont de méchantes créatures. En réalité, la majorité d'entre eux jouent un rôle essentiel dans la vie et est une source de bienfaits aussi bien pour les hommes et les animaux que pour tout le vivant. Microbiote. C'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, virus, qui colonisent la planète et chaque être vivant sur cette planète. Chez les humains et les animaux, il existe plusieurs microbiotes, cutanés, buccales, vaginales, pulmonaires, intestinales. Ce dernier est quantitativement le plus important, il pèse 1,5 kg chez un adulte, et le plus étudié. La densité de sa population se retrouve dans nos selles, certainement le lieu le plus habité de la planète, avec 100 milliards de bactéries par gramme. Neurotransmetteurs. Ce sont des molécules libérées à la jonction entre deux neurones, qu'on appelle synapses, pour agir sur d'autres neurones ou sur des cellules. Ils ont l'effet de sortes de messagers chimiques qui ont le plus souvent un potentiel excitateur, dopamine, sérotonine, noradrénaline, et parfois un pouvoir inhibiteur, GABA. Ces molécules exercent de multiples fonctions, de la dilatation des vaisseaux ou de la contraction des bronches ou des intestins, à la modulation de l'humeur, du stress, des émotions, de la tension, du plaisir, etc. Prébiotiques. Ces composés font partie de notre alimentation, mais ils ne sont pas digérés par notre intestin. Ils constituent la nourriture de nos bactéries, celle qui permet leur croissance. On les trouve essentiellement dans certains fruits et dans les légumes. Ce sont les fibres dont on connaît les effets positifs sur la santé. Ils existent par ailleurs sous forme de compléments alimentaires. Probiotiques. C'est un organisme vivant, bactérie ou levure, dont l'ingestion a un effet bénéfique sur la santé dans la mesure où il contribue à la diversité du microbiote intestinal. Il en existe de multiples souches. Les sources précieuses de probiotiques dans notre alimentation sont le yaourt, les laits fermentés, le kéfir, la choucroute, la levure de bière vivante qu'on trouve dans les magasins bio, le saucisson, la croûte de certains fromages. En Europe, les compléments alimentaires à vertu probiotique n'ont pas le droit d'afficher cette dénomination. On les retrouve le plus souvent sous le nom de ferments lactiques. Yaourt. Je vais souvent en parler dans les pages qui suivent. Le yaourt est un lait fermenté exclusivement par deux bactéries qui resteront vivantes dans le produit fini. Le Lactobacillus bulgaricus, qui tient son nom des Bulgares dont la longue vie est attribuée aux vertus des yaourts dont ils sont grands consommateurs, et le Streptococcus thermophilus. Si la fermentation fait intervenir d'autres bactéries, il ne s'agit plus d'un yaourt. Il n'a plus droit à cette appellation, même si ça lui ressemble. C'est un lait fermenté. Il en existe de délicieux, je ne porte pas là un jugement de valeur, je ne préjuge pas que le lait fermenté ait plus ou moins de vertu que le yaourt, mais en rigueur scientifique, c'est un point important. Attention toutefois au lait de soja ou d'oléagineux fermenté. Certains contiennent des carrageenan qui sont des ennemis du microbiote.